thème et les membres. Ce soir, Emmanuel Briand nous présente le culte du Saint-Esprit, un vol de mille colombes dans l'imaginaire portugais, avec la participation de José Maria Lima de Freitas, artiste peintre, enseignant à l'école d'art de l'AD et consultant au ministère de la Culture du Portugal, et Gilbert Durand, fondateur du Centre de recherche sur l'imaginaire et docteur honoris causa à l'Université Nouvelle de Lisbonne. Aujourd'hui, les emblèmes et les nombres.
Nous pourrions peut-être rappeler aujourd'hui les principaux éléments de la représentation du Saint-Esprit dans la culture chrétienne. On sait que cette iconographie est assez pauvre, elle se réduit à quelques figures et emblèmes et à quelques vicaires privilégiés, mais elle nous renseigne bien sûr de façon éloquente sur la dynamique chrétienne de la rédemption et de la parousie. Notamment sans doute parce qu'elle vient illustrer quelques moments majeurs des évangiles et de la vie du Christ, vous allez nous dire lesquels, et aussi parce qu'elles mettent en valeur principalement deux ou trois parmi les quatre éléments de la tradition, l'air et l'eau parfois. Mais en premier lieu, l'Ima de Freitas, d'où vient ce mot de paraclet, qui désigne le Saint-Esprit? Que signifie-t-il?
Le paraclet, c'est un mot qui on trouve dans l'évangile de Jean, et qui veut dire le consolateur.
Donc, il y a une dimension affective, je dirais presque, dans ce terme.
Il y a aussi
émotionnel.
Très importante, oui. c'est même une dimension d'amour, c'est parce que le Saint-Esprit, c'est aussi effusion amoureuse. Alors, l'iconographie du paraclet n'existe pas parce que le paraclet n'est pas venu encore. C'est pas comme l'iconographie du Christ n'existait pas dans le Christ, n'est-ce pas?
Mais néanmoins, Gilbert Durand, on a dû faire appel à un certain nombre de représentations.
Mais c'est plutôt des annonces.
En scène.
Oui, alors là, il y a un problème théologique dont on traitera plus tard, oui. Savoir si le paraclet est déjà là ou s'il doit venir. C'est un grand problème qui m'oppose mon joachimisme. Oui. Mais je reprends votre propos. Effectivement, d'une part, il y a une iconographie assez pauvre, mais le Saint-Esprit est toujours le paraclet. Le Saint-Esprit est quelque chose qui descend. Et également, le grand trait de la transformation. C'est un transformateur. C'est quelque chose qui modifie. Alors, les emblèmes, ils sont très connus. Il y a d'abord la colombe du Saint-Esprit. Alors là, on peut gloser beaucoup sur cette colombe. Probablement, beaucoup de contresens, vous savez, constituent la géographie ou l'iconographie. Là, il y en a au moins deux. Chez Saint-Marc, le Saint-Esprit descend comme le ferait une colombe. Alors que chez Saint-Luc, c'est déjà plus précis, sous forme d'une colombe. Il y a eu déjà une dérivation, n'est-ce pas, très nette. Également, il y a un grand contresens sur lequel je reviendrai, c'est les langues de feu. Mm-hmm. Bon, les langues de feu ont donné la glossolalie, lingua,
dans des langues.
Dans des langues. Bon, c'est un autre contresens, mais significatif. Donc c'est la colombe, et puis alors, le Saint-Esprit est lié aux éléments. L'air, colombe d'ailleurs, est le symbole de l'air. C'est le symbole de l'air et aussi l'affectivité, si l'on pense que la colombe était l'animal des sacrifices au temps de Jérusalem, et également l'oiseau de Vénus. Une autre tradition. C'est-à-dire du côté affectif. Il y a l'eau baptismale, puisque le Saint-Esprit intervient directement dans le baptême du Christ. Il y a le feu, bien entendu, de la Pentecôte. Les langues de feu sont bien des langues de feu dans le texte. Là, il n'y a pas de temps. C'est la glossolalie qui est à prendre au sens. La terre n'est pas représentée directement, mais elle est représentée par la numérologie, incluse, très forte, comme emblème du Saint-Esprit.
Par exemple,
septiforme, il a sept formes, même dans une figuration qui se trouve au musée de Saint-Clément, elle vient de Saint-Clément de Talun, au musée de Barcelone, l'agneau a 7 yeux, copie des cornes du bélier dans l'Apocalypse. Mais non seulement le 7 également, mais on retrouve le 5, car souvent le Saint-Esprit iconographiquement, et je pense à une église qui est dans mon pays, l'église de Champs dans l'Isère, c'est le 12e siècle, c'est la main de Dieu qui est le Saint-Esprit, qui descend, avec les cinq doigts de la main. Vous avez le 12 également, les 12 signes du zodiaque, qui tout ça symbolise l'élémentaire. Le Saint-Esprit est bien celui qui vient transformer la Terre.
C'est très simple, c'est dans une symbolique des nombres qui est très ancienne, puisque qui est liée d'ailleurs à l'Empire parfois, enfin les 7 collines de Rome.
Oui, oui, bien sûr.
Cette étoile de la Brandeur.
Parce que l'empereur, c'est celui qui organise. Augustus, c'est augere, n'est-ce pas, c'est celui qui augmente les biens de la Terre. C'est le sens même d'Auguste, du titre de l'empereur. C'est celui qui vient augmenter. Le Saint-Esprit a exactement cette fonction. Il vient transformer. Et alors, à côté de ces représentations classiques et relativement pauvres, vous avez alors des représentations secondaires, par exemple, le feu, qui est le grand élément du Saint-Esprit, les langues de feu, elles sont produites par des briquets qui sont figurés d'une part dans la résurrection de l'ordre du Saint-Esprit, rénovation par Henri III en 1578, mais surtout dans l'ordre de la toison d'or de 1431, où là vous avez deux éléments intéressants. D'abord, le collier de la toison d'or porte l'agneau, qui est aussi bien le bélier, le colchide, la tradition païenne,
de Jason,
ou celui de Gédéon. Les deux interprétations peuvent être données, mais ce collier est formé de briquets à silex, qui ont la forme de coups de poing, entre lesquels jaillissent les flammes. Et sur le manteau, alors, de l'ordre de la Toison d'Or, qui est un ordre bourguignon, et je me tourne vers l'imam, parce que cela a une grosse importance, vous avez les bâtons croisés, deux bâtons croisés, la croix de Saint-André. Saint-André est le patron de l'ordre de la Toison d'Or. Et ces bâtons sont les bâtons écotés du blason de Bourgogne. Or, c'est un briquet, également, un briquet à friction, comme on dit en termes de technologie. C'est le fameux briquet qu'on retrouve dans le Pacifique ou dans l'océan Indien, l'arani des anciens Védiques, le frottement de deux morceaux de bois qui produisent le feu. Or, et c'est là où j'en viens à la découverte, nous avons fait Sansonetti, Usdorf, et Breda Simoinge dans l'île de Fayal, où sont gardées très précieusement les premières couronnes des empires du Saint-Esprit, sont secrètes, on ne veut pas dire où elles sont, pour que l'Église s'en empare, ou que le gouvernement portugais les mette dans un musée. Mais comme nous n'étions ni portugais, ni ecclésiastiques, on nous les a montrés, ils sont cachés chez une vieille femme, et aux merveilles, nous avons découvert sur ces premières couronnes les bâtons écotés de Bourgogne. C'est-à-dire la croix de Saint-André, productrice du feu, du Saint-Esprit. Alors cela est très important, et également, il y a dans cette transformation, vous avez les trois fêtes canoniques du Saint-Esprit, le baptême du Christ, le Saint-Esprit descend avec l'eau. Et puis la transfiguration ou métamorphosis, où le Saint-Esprit, si vous voulez, transfigure le Christ, le fait blanc comme neige.
C'est la nuée aussi.
Oui, la nuée. Et puis alors, il y a tout de même un emblème très impérial, surtout dans le fameux tableau de Véronèse de 1552.
Ah oui, qui représente François Ier, qui représente
Solima, François Ier, Marie d'Angleterre, etc. Vous avez là tous les empereurs du monde.
Ils sont au banquet du monde.
Ils sont au banquet du monde, le banquet où l'eau est transformée en vin. Et c'est très important car nous allons trouver ça chez les vicaires. Thank you.
C'est cette notion de vicariat qui est liée au Saint-Esprit. Donc, certaines figures, certains personnages qui sont des porte-paroles, des messagers du Saint-Esprit dans l'histoire non seulement néo-testamentaire, mais dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire des saints.
Oui, les vicaires, bien sûr, il y a l'archange Gabriel, qui est le grand vicaire du Saint-Esprit. Il porte le bâton ponté de Mercure, le messager des dieux, dans toute l'iconographie de l'Annonciation. Et il est lié directement à la Vierge. Là, il y a un ensemble, la Vierge, n'oublions pas que très souvent le Saint-Esprit est féminisé dans la tradition dantesque des fidèles d'amour, c'est Madonna Intelligentsia.
Et dans ces processions que vous avez vues aux Açores, ce sont des femmes qui portent.
Ils portent l'ensemble, et après, ils portent le plateau, le Graal, qui contenait la couronne et le sceptre. Mais Gabriel est le grand vicaire du Saint-Esprit. D'ailleurs, il est également pour les musulmans. C'est le seul archange qui parle. Le phylactère qui sort de sa bouche, Ave Maria, montre bien que c'est l'archange qui parle, qui porte la parole et qui va, pour les musulmans, incarner le Verbe. Les musulmans croient à l'incarnation d'un Verbe, pas de Dieu, de son Verbe. Il y a également, bien sûr, Jean le Baptiste, le prodrome, celui qui vient avant, n'est-ce pas, et qui va porter la mélotte, le costume en poil de chameau, mais qui devient très vite dans l'iconographie en costume en peau de bélier. Et souvent, il est confondu avec Jean l'évangéliste, les deux saints Jean. Et là, vous retrouvez Marie, la déesse, n'est-ce pas, Marie et saint Jean au pied de la croix. Et saint Jean l'évangéliste, femme, fils, voilà ta mère. Puis alors, je voudrais tout de même insister sur le vicaire moins évident, c'est Joseph d'Arimathie. Joseph d'Arimathie, qui est le locataire du Cénacle, ou tout le monde, le donateur du Cénacle, c'est ce riche juif du Sanhédrin, et qui non seulement va donner la coupe de l'Eucharistie, mais dans cette coupe, va recevoir le précieux sang et ça va devenir le Graal. Il va débarquer en France avec les Saintes Marie, il va passer à travers les Pyrénées dans l'Ariège où il laisse des traces légendaires, mythiques, je n'en sais rien, et aller évangéliser l'Angleterre où il est enterré à l'abbaye de Glastonbury.
Combien, c'est le royaume du prêtre Jean.
Voilà, hein. Combien important, n'est-ce pas? Et là, nous retrouvons dans sa personne la liaison justement avec le cycle celtique et arthurien. Et puis, le grand vicaire du Saint-Esprit. Le moment où le Saint-Esprit vient sur Terre, car Joachim de Flore avait fixé la date de 1260. Mais il y en a tout de même un vicaire, c'est François d'Assise. François d'Assise qui va, dans l'esprit de beaucoup, accomplir la prophétie de Daniel. Les cinq royaumes, quinto impérium. Le royaume qui va venir, le temps des Lys. Et également, François d'Assise va avoir tous les attributs transformateurs. C'est-à-dire, il va y avoir une sorte de miracle des roses, qu'on appelle le miracle des épines.
Oui, qui était en amitié avec tous les éléments.
Également, la prédication aux oiseaux. Oui. Son disciple, saint Antoine de Lisbonne, pas nous, va prêcher aux poissons. Le loup de Goubiot, chez François d'Assise. Et aussi, il transforme, c'est un des rares, il transforme l'eau en vin, comme à Cana. D'où l'image énorme de François d'Assise.
Et le rôle des franciscains.
Et le rôle des franciscains, il va s'emboîter là-dedans.
Il faut souligner que le franciscanisme a trouvé au Portugal un champ d'élection, un champ où il a prospéré d'une façon éblouissante et même parfois trop grande, parce que l'Église, par exemple, l'Église de Porto a réagi très fortement contre les franciscains, parce qu'ils ont conquis tout de suite la popularité. Bon, alors, le franciscanisme au Portugal a pris une telle ampleur et a tout de suite adhéré d'une façon si enthousiaste au culte du Saint-Esprit que là, nous avons encore un pont étroit qui se forme et qui va expliquer notamment l'expansion portugaise avec les découvertes. Dans chaque caravelle, il y avait un franciscain. Il va expliquer aussi certains aspects de l'iconographie chrétienne. C'est les franciscains les responsables pour la sainte crèche. Or, les saintes crèches sont un aspect essentiel dans l'iconographie portugaise. Mais il y a un autre aspect, c'est qu'à mon avis, il y a une représentation unique du paraclet dans la peinture portugaise du XVe siècle. C'est les fameux panneaux de Nuno Gonçalves qui se trouvent au musée de Lisbonne. C'est un polyptyque de 6 panneaux, dont 2 au centre représentent le roi du Portugal et la reine, et les chevaliers, qui sont autour d'un personnage qui apparaît double, apparaît 2 fois. Ce qui a créé beaucoup de problèmes et d'interrogations. Pourquoi 2 fois? Et aussi, on ne sait pas très bien qui c'est, ce personnage sanctifié, parce qu'il a une auréole dorée autour de sa tête. Alors, une des théories la plus acceptée, c'est qu'il s'agit de Saint Vincent. Saint Vincent, un martyr du christianisme, dont les restes mortels ont été cachés des morts au cap de San Vincent, justement à l'extrémité sud du Portugal. On a perdu la trace de cette tombe. Elle a été retrouvée grâce aux corbeaux qui ont toujours accompagné le reste mortel du saint. Le corbeau qui est un symbole aussi de transformation alchimique, n'est-ce pas? Et on peut dire qu'un commando du premier roi du Portugal est allé à cette extrémité du Portugal qui était encore sous occupation arabe, a volé ces restes mortels de l'endroit où il était, découvert par une vision, et les a ramenés à Lisbonne et déposés à la cathédrale de Lisbonne dans un grand hôtel qui était l'hôtel de Saint Vincent. Saint Vincent qui figure dans les armes de Lisbonne. Alors, lors du tremblement de terre de 1755, cette chapelle et toute la cathédrale a subi beaucoup de dégâts et d'incendies aussi, et cet hôtel a disparu. Donc, on pense que cette peinture était pour cet hôtel, et donc que ce sens serait Saint Vincent. À mon avis, c'est exactement une représentation du paraclet, donc du Saint-Esprit, du Maître Didier, comme dirait Dante. Maître Didier, dont on parle Dante, de l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire, il est aussi désigné par Dante comme 515.
Le nombre
515. 515. Or, ce nombre est implicite dans le panneau de Nuno Gonçalves. Et donc, le fait qu'il y ait là un 515 représenté comme dans une scène de théâtre, n'est-ce pas, porte une signification très étonnante. Et ce serait donc une citation de Dante qui est implicite dans ce tableau, voulant signifier, voilà, celui-là est le maître de Dieu qui vient de là. Et le roi est à genoux, et tout le peuple portugais et les chevaliers sont à genoux devant lui. Donc, il y a là une investiture qui est vraiment celle du Saint-Esprit.
Le culte du Saint-Esprit, un vol de mille colombes dans l'imaginaire portugais, par Emmanuel Drillon avec la participation de José Maria Lima de Freitas et Gilbert Durand. Demain, Saturnales, Franciscains et Jésus.